franceinter.fr.
Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
On commence par un hommage à l'homme qui n'avait pas d'ennemis, pas de haine.
La chaise restera à tout jamais vide, écrit Pierre Aski sur le site de l'Obs. Liu Xiaobo, qui n'avait pas pu assister à la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix à Oslo en 2010, avait été symboliquement remplacé par une chaise vide. Liu Xiaobo, 11 années de prison au total, est mort hier. Pierre Aski, grand connaisseur de la Chine, retrace le parcours d'un homme qui a payé au prix le plus fort, dit-il, une vie d'engagement en faveur de la démocratie dans son pays. Sans doute, écrit-il, y avait-il une part sacrificielle chez cet intellectuel brillant, diplômé de la prestigieuse université de Pékin, puis professeur de littérature chinoise, qui n'a donc jamais accepté de renoncer à son idéal démocratique, ni en rentrant dans le rang, comme un certain nombre d'activistes aujourd'hui enrichis, ni dans un exil pas toujours choisi, mais toujours sans retour. Liu Xiaobo était devenu l'ennemi public numéro un aux yeux du pouvoir communiste. Même si jamais il n'a envisagé la violence comme une solution, il l'a prouvé. Place Tiananmen en 1989, il rejoint les étudiants en révolte, il soutient leur combat, mais c'est lui qui les dissuade de prendre les armes, lui qui évite sans doute des morts encore plus nombreux. Tout comme Nelson Mandela à Robben Island, relève Aski. Le dissident parle de la prison comme d'une expérience initiatique. En vérité, écrira-t-il, dans ce lieu dépouillé d'humanité, la seule façon de préserver sa dignité est la résistance. L'emprisonnement n'est donc qu'une partie indispensable de la dignité humaine. Il refuse toute soif de vengeance. Il terminera donc sa déclaration à ses juges en 2009 par ces mots puissants. « Je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas de haine ». Son modèle, son inspirateur, c'est le dissident et dramaturge tchèque Václav Havel. C'est aussi sa femme, privée de liberté, pour payer le prix d'être simplement son épouse. Liu Xiaobo n'aura pas vécu, comme Václav Havel, le miracle de voir le triomphe de ses idéaux. La Chine, conclut Pierre Aski, en passe de devenir la première puissance mondiale, se sent même assez forte pour balayer d'un revers de la main les échos lointains de l'histoire, car le seul autre prix Nobel à être mort prisonnier est Ossietzky, intellectuel pacifiste couronné par le Nobel en 1936. Il est mort à Berlin en 1938. Il y aura désormais deux chaises vides à Oslo.
Retour en France et au traditionnel défilé militaire du 14 juillet et à son invité d'honneur cette année, un certain Donald Trump.
Trump et Macron, un climat de super amitié, nous dit Vosges Matin, qui relève que les deux présidents et leurs épouses n'ont pas lésiné sur les fastes, les signes, les images et les mots pour montrer hier à Paris qu'ils n'étaient pas de simples alliés mais de grands amis. Le Parisien aujourd'hui détaille les assauts d'amabilité entre les deux présidents à coups de cartes postales presque vintage offertes au couple américain. Invalide pour monsieur, balade sur la Seine pour madame, tout le monde au deuxième étage de la Tour Eiffel pour un dîner gastronomique. Amabilité qui frise la goujaterie quand Donald Trump s'extasie de la forme, oh, la bonne forme de Brigitte Macron, 64 ans, elle n'a pas l'air d'en revenir de sa forme. La vidéo est à regarder sur le site du Huffington Post. Je signale à toutes fins utiles que Donald Trump a 71 ans.
C'est noté.
Mais grands amis, vraiment, Libération a choisi de titrer « Donald Trump, un paria à Paris ». Emmanuel Macron l'accueille pour une visite bling-bling. Est-ce suffisant pour l'amadouer? Eh bien, le quotidien se divise dans ses propres colonnes. Deux éditos en vis-à-vis. L'un, signé Johann Hufnagel, défend l'idée qu'après tout, Trump vaut bien une rasade de clichés parisiens si à la fin, Macron parvient à le faire bouger de ses positions isolationnistes et anticlimat. L'autre, de Grégoire Bizot, dénonce une faute. La faute d'Emmanuel Macron, écrit-il, n'est pas d'avoir convié Trump, mais de lui offrir les fastes et les valeurs de notre fête nationale, lui qui a fait un bras d'honneur à la planète entière. Bizot qui se range du côté de l'opinion publique américaine, qui a honte, dit-il, du négationnisme climatique de son président et qui ne peut pas comprendre, conclut-il, les honneurs de la France à celui qui déshonore la parole et le rêve américain. Mais si au final ça marchait quand même, le Parisien revient et souligne la petite phrase prononcée hier par Donald Trump à l'issue de son rendez-vous avec le président français. Oui, quelque chose pourrait se passer concernant l'accord de Paris, a-t-il lâché. Alors volonté de faire plaisir à son ami ou véritable inflexion, à l'Élysée, on reste prudent, paraît-il. La presse américaine, elle, en tout cas, sensiblement changée de pied. Après s'être un petit peu énamourée d'Emmanuel Macron, présentée comme un anti-Trump au moment de son élection, elle pointe désormais tout ce qui rapproche leur président et le nôtre. Titre du Washington Post sur les premières heures de la visite parisienne. Trump et Macron, présentés hier comme adversaires, montrent finalement leur point commun. Et l'article de détailler le même goût narcissique pour le pouvoir de ces deux novices en politique, leur même goût pour l'autorité, leur même volonté de balayer l'ancien monde et même leur relation compliquée avec la presse, même si la défiance n'est pas tout à fait du même niveau d'un côté et de l'autre. Pas sûr que même au nom de la Realpolitik, Emmanuel Macron avait à ce point envie qu'on lui colle un tel mentor ce matin.
Le défilé militaire en présence des deux hommes commencera donc tout à l'heure, hein, à 9h sur les Champs-Élysées. Mais sur le budget de la défense, la presse revient ce matin sur la sévère mise au point hier du chef de l'État.
Oui, alors je ne m'attarde pas puisque vous en parlez ce matin avec votre invité Hélène, mais l'article et le titre explicite de Jean-Dominique Mercher dans l'Opinion ce matin vaut le détour. Emmanuel Macron met un bourre-pif au chef d'état-major des armées. Bourre-pif, avoiné, remontée de bretelles, chacun y allait de sa formule, paraît-il hier, dans le public de la Garden Party des Jardins de l'Hôtel de Brienne, le ministère de la Défense, où était rassemblée toute la haute hiérarchie militaire. Le ton était sec, le regard dur, quand le président a très vivement recadré Pierre de Villiers, sans citer son nom. Il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique, a dit le président. Je suis votre chef, a donc recadré sévère Emmanuel Macron. Silence dans les rangs rompés, c'est moi le chef. Jean-Dominique Mercher parle d'un public consterné qui a trouvé inélégant et maladroit un tel recadrage en public. Le Parisien, lui, fait état d'une citation de Pierre de Villiers mercredi devant les députés de la commission de la défense de l'Assemblée nationale qui l'auditionnait. « Je ne vais pas me faire baiser comme ça », aurait-il dit furieux des économies réclamées à la défense pour le prochain budget. Après le recadrage du chef de l'État, donc dans les Jardins de Brienne, nous dit le Parisien, sa démission, celle évidemment du chef d'état-major des armées, plus ou moins rapide, faisait peu de doute.
Rien à voir avec l'uniforme. On termine avec la tendance de l'été.
L'été 2017 sera cuni ou ne sera pas. Oui, Dominique Perrin, dans M, le magazine du Monde, nous retrace ce matin l'histoire d'une station balnéaire qui fut et reste le temple du naturisme, le Cap d'Agde, De Gaulle et les Cunus. C'est en effet Pierre Racine qui, aux côtés du général dans les années 60, imagina ces villes nouvelles sorties de terre sur la côte languedocienne pour accompagner une société de loisirs alors en pleine expansion, pour diversifier aussi l'économie d'une région en pleine crise viticole. Bon, ils étaient peu sensibles, le général et l'architecte, il faut bien l'avouer, à l'idéal cunu qui s'y imposa, mais ils étaient d'ailleurs convaincus à l'époque que la mode allait péricliter, ben c'est complètement raté. Cosette, pour son numéro d'été, nous raconte comment ce vivre à poil connaît un incroyable renouveau. La preuve, le Conseil de Paris a validé pour la première fois la création d'un espace naturiste dans la capitale. On est loin, on est très loin de ces jours d'août 1927 où des villageoises bretonnes s'armaient de ronces et d'ortilles pour fouetter un groupe de baigneuses en maillot à l'époque. Désormais, nudisme et naturisme sont tendance, paraît-il. Ils s'affichent partout, sur les plages et sur les réseaux sociaux. Plus du tout contestataires, mais pleinement intégrés aux mœurs de la société, quitte en fait à devenir un nouveau diktat. Alors pour être punk, comme on aime à le dire ici, faut peut-être finalement remettre le maillot cet été.
C'était la revue de presse d'Hélène Jouan. Merci beaucoup.